Vous écoutez France Culture.
Il est 12h et presque 45 minutes, l'heure de vous retrouver, Martin Kenen, pour la grande table d'été.
Merci Mathieu, Mathieu Laurent et la rédaction de France Culture vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Aujourd'hui, la grande table d'été se fait tour à tour table de tir à la veille des feux d'artifice du 15 août, puis piège sentimental pour amants chinois égarés à l'occasion de la sortie sur nos écrans du film de Vivien Chu, Trap Street, et enfin Stèle, en hommage au grand sinologue et écrivain belge Simon Leys qui vient de nous quitter. Quant aux chroniques d'Aude Lavigne et de Claudia Prolongeau à 13h15 et 13h55, elles feront quant à elles muter notre grande table en châssis de tableaux et en plateforme de téléchargement participatif. Mais pour l'heure, dans cette première partie de notre émission, la grande table devient donc inflammable comme la mèche d'une fusée alors que se préparent un peu partout en France les feux d'artifice du 15 août. Par exemple à Quiberon, Saint-Nectaire, Biarritz, Nice ou encore à Cannes, une cité qui propose comme chaque été son festival d'art pyrotechnique. Dans le même temps, nous en disions d'ailleurs un mot hier, sort aujourd'hui sur nos écrans Les Gardiens de la Galaxie, un film massu et surtout lui aussi explosif. Alors pour mettre le feu aux poudres, j'ai le plaisir de recevoir un artificier du verbe et de la pensée qui nous parle depuis Nice grâce aux équipes de France Bleu Azur, David Morin-Hulman, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes poète, sociologue, on vous doit en particulier « La destruction festive du monde, étude diagonale des films explosifs » paru dans le numéro 147 de la revue Cinémaction. Ouais. Et puis à mes côtés se tient un autre artificier qui fait non pas fleurir, mais crépiter et chatoyer le désert. André Topalovitch, bonjour. Vous êtes manager général de la branche Moyen-Orient et Asie centrale de la firme Lacroix Ruggeri, qui pratique cet art pyrotechnique depuis 1739. Vous vous mêlez volontiers également de scénarios et de mise en scène de shows pyrotechniques dans ces pays. Quant à Marine Loyen, collaboratrice nomade et téméraire de la Grande Table d'été, elle n'est pas avec nous en studio, mais quelque part en plein air, en compagnie de Guillaume, qui navigue présentement entre les bombes.
Il y en a un qui reste au boîtier et un qui lui passe le fil en lui disant...
Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Alors là, on passe à la dernière phase de l'installation du feu, c'est-à-dire qu'on câble. Donc, les produits ont été préparés avec un allumeur électrique. Cet allumeur électrique doit être relié au boîtier. Et donc, chaque fil orange que vous voyez, c'est donc un allumeur électrique. L'allumeur électrique, c'est une petite capsule qui va, quand on va lui envoyer de l'électricité, qui va faire une petite flamme. Et c'est cette flamme qui va donner le feu aux produits, et donc on les relie selon le numéro qui a été assigné dès le départ sur le plan de feu.
Et là, c'est délicat comme étape, le câblage?
C'est pour moi quelque chose de très très important, parce qu'en fait, dans tout le déroulement de la création d'un feu d'artifice, il y a énormément d'étapes où on peut faire des erreurs. Quand on prépare l'artifice, il faut faire attention, c'est une manipulation qui est très délicate. La protection contre la pluie, la protection contre le feu, parce que pendant le feu d'artifice, il y a énormément de retombées, il ne faut pas que ça allume, ce qu'on appelle l'auto-allumage. Et cette dernière étape qui est le câblage, c'est hyper important, parce que si, après tout ce travail minutieux, on se trompe en câblant la ligne, moi je ne le sais pas, mais quand je vais tirer la ligne 33, si on a tout mis en 34, il n'y a rien qui va partir, et donc c'est très très important. C'est un moment où il faut être concentré.
Et comment ça se passe ensuite pendant le feu?
Ce feu-là, il va être tiré en programmé, c'est-à-dire que j'ai un logiciel sur mon ordinateur sur lequel j'ai fait la programmation du feu. Donc c'est un timecode et on avance au fur et à mesure, on suit la bande de son. La table de tir transmet en HF sur tous les boîtiers orange que vous voyez sur le site en disant il faut tirer la ligne 1 des box 1. Donc tous les box qui s'appellent 1 vont tirer la ligne 1.
Il y a quelle quantité d'explosifs là?
Là, on est sur 190 kg de matière active. Donc c'est un gros feu d'artifice, on peut dire. D'accord. De toute façon, on le voit au nombre de postes qui ont été mis en façade, au nombre de bombes. C'est un gros feu d'artifice.
André Topalovitch, ici au micro de Marine Loyen, Guillaume Pujol, chef de tir, parle d'une quantité de matière active de 190 kilos. C'est une quantité non négligeable, mais ça vous fait sourire, vous, le grand artificier de Ruggeri au Moyen-Orient?
Non, non, ça ne nous fait pas sourire, puisqu'on travaille aussi sur des feux de puissance équivalente. Il est vrai que sur les feux qui sont représentatifs de des fêtes nationales, par exemple, on travaille sur des quantités beaucoup plus importantes, mais parce qu'on a des espaces qui sont dégagés. On fait des lignes de front qui font facilement 1 km, 1,2 km. Donc, on a bien évidemment besoin de beaucoup plus de matière.
Et alors, on a quantité de matière ?
On monte jusqu'à 3 tonnes de matière active.
Et alors vous parlez de fêtes nationales, c'est en particulier les fêtes nationales aux Émirats Arabes Unis, qui ont lieu en décembre. On pourra retrouver encore cette année vos feux, les découvrir. Mais alors vous parlez justement d'un espace dégagé, vous tirez dans le désert ?
Alors là, en l'occurrence, on tire sur l'eau. Donc derrière un bâtiment qui est emblématique, qui s'appelle le Bourg El Arab, hein, qui est un bâtiment qui fait 300 mètres de haut. Donc on tire derrière le feu pour faire une façade et sur le bâtiment également, où on mélange l'artifice avec les techniques multimédia, notamment du mapping 3D, de la lumière et de la musique.
David Morin-Hulman, on entendait à l'instant Guillaume Pujol, chef de tir, décrire l'organisation technique très rationnelle et peut-être même au fond mathématique de ces spectacles pyrotechniques. Vous écrivez dans votre Destruction festive du monde que la fantaisie mathématique de la rationalisation à la financiarisation est au principe même du cinéma explosif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ?
Alors je l'écris ainsi, mais je pourrais le renverser, c'est-à-dire que ce qui est à la racine de l'Occident aujourd'hui, depuis l'envoi du Logos par les Grecs, c'est justement la rationalisation du monde. Et Logos et rationalisation renvoient aussi à la mathématisation du monde, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui à la numérisation du monde. Et en fait, lorsqu'on comprend bien cela, ça veut simplement dire que tout est mathématisé, tout est rationalisé au millimètre près, pour qu'on ne risque le moins de choses possibles, pour qu'en fait l'humanité risque le moins de choses possibles. Et ce qui est intéressant en Occident aussi, c'est que cela provoque le contraire même de ce qui a été proposé par le Logos, c'est-à-dire que vous avez justement des fusées qui sont les fusées festives, et puis vous avez des fusées qui sont à la racine d'ailleurs des fusées festives, les fusées guerrières, donc pour détruire l'adversaire et pour détruire le monde. Voilà pourquoi je parle souvent d'aspects festifs.
Mais alors cette dimension mathématique, si on y reste un instant, elle a pour but, vous le dites, de limiter le risque. Et pourtant, le spectacle pyrotechnique, que ce soit en plein air ou sur grand écran, c'est aussi le goût du danger, le goût du risque. Comment on explique ce paradoxe ?
Alors avec un vocabulaire, je vais me permettre, avec un vocabulaire de philosophe, on pourrait parler de dialectique, c'est-à-dire que vous avez le premier moment qui est la peur qu'a pu ressentir les anthropoïdes, etc. Et au fur et à mesure, donc l'homme, avec la culture, va évidemment contrôler ou essayer de contrôler ou se faire croire qu'il contrôle quelque chose, ce quelque chose s'appelle en fait la culture, le sens, le monde surtout, hein, on plaque, on surajoute, comme disent certains sociologues, on surajoute du sens, on surajoute de la culture sur la nature, et en faisant cela, un peu comme un masque africain, on a l'impression de maîtriser justement le monde. Alors, lorsqu'on maîtrise le monde, la deuxième phase, puisque je vous parlais de dialectique, la deuxième phase, c'est de jouer, ça y est, je maîtrise moi avec la culture, je maîtrise la nature, mais il me faut aussi un moment de joie, un moment de dépenses, un moment d'excès. Et le moment d'excès, c'est justement de se laisser un peu de risque, un peu de joie, un peu d'excès. C'est-à-dire de proposer des jeux qui sont à la limite, qui sont sur le bord, qui sont justement toujours festifs, donc, pour provoquer cette joie, mais qui sont dangereux. C'est ce qu'on peut appeler aussi la prise de risque avec les feux d'artifice ou avec les pétards. Quand on est tout petit, ça commence évidemment avec les pétards.
André Topalovitch, il y a ce danger, mais il y a aussi toute la sécurité qui entoure de plus en plus l'organisation des feux d'artifice, que ce soit à l'échelle locale, dans les jardins des particuliers, mais évidemment dans le cadre des très grands spectacles pyrotechniques que vous organisez au Moyen-Orient, en Asie centrale pour la firme La Croix-Rougéry. On peut également considérer, comme le proposait David Morin-Hulman, que la fantaisie mathématique est au principe même du feu d'artifice.
Pour nous, il n'y a pas de fantaisie en termes de sécurité. Donc les mathématiques sont là pour assurer la sécurité dans le contrôle du matériel du système de tir, mais aussi dans la calibration de tous les effets qu'on va mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on mesure l'impact, ce qui nous permet de mettre en place des distances de sécurité. Notre fantaisie, elle sera plutôt artistique. C'est comme passer de l'algèbre à la conjecture de Poincaré ou aller à la physique quantique. Donc ça sera une autre... C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil ? Comment est-ce qu'on peut développer un nouveau produit ? Comment est-ce qu'on peut développer un nouvel effet visuel qui va créer de l'émotion ?
Il y a de la physique quantique dans vos spectacles pyrotechniques ?
Pas encore, mais c'est dans le process de réflexion, c'est la route qu'ont suivi nos mathématiciens dont on parlait tout à l'heure.
Vous avez écrit sur les films explosifs, sur les blockbusters, les histoires de super-héros, les films de science-fiction, David Morin-Hullman. Mais alors, parlons de la différence de ces films avec les véritables feux d'artifice qu'on voit éclater dans le ciel d'été, en particulier qu'on verra le 15 août, par opposition à ces feux d'artifice qui, au départ, vous le disiez, étaient des bombes, mais qui aujourd'hui sont a priori inoffensifs. Dans les films, tout explose. Les villes, peut-être parfois même les planètes entières. Et tout cela témoigne, selon vous, d'un monde que nous ne pouvons plus politiquement détruire.
Oui, c'est une de mes hypothèses que j'essaie de fonder, d'expliquer, d'argumenter. C'est un monde que nous ne pouvons plus détruire au sens où, justement, après ce grand moment de la technique, ce grand moment de la science, ce grand moment d'un désenchantement, réenchantement par la science, désenchantement, réenchantement par les mathématiques, et par la politique, évidemment, puisque la politique se sert des mathématiques et de la science pour asseoir son pouvoir, voilà. Eh bien, nous, spectateurs, nous achetons en fait du bruit, nous achetons du tonnerre pour pouvoir parfois penser à la destruction de ces mondes. Et un peu comme dans les jeux vidéo, d'ailleurs, où vous avez des constructions d'empires et des destructions d'empires. Nous sommes les regardeurs, les spectateurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, regardeurs, spectateurs, bref, nous sommes les spectateurs de ce monde qui s'est composé depuis, disons, 4000, 8000 ans, et puis de certaines choses qui sont en place et que nous ne pouvons guère faire évoluer.
Alors, détruire, dites-vous, David Morin-Hullman, détruire, oui. Dit-elle, c'est le titre d'un ouvrage de Marguerite Duras, mais c'est aussi le bon plaisir de Margot Osier, avec qui est à présent Marine Loyen.
Je suis fille d'artificier, et donc c'est un peu toute mon enfance. J'ai passé toutes mes vacances à partir sur les chantiers. Ça a vraiment rythmé toute ma vie, quoi. J'ai grandi dans ce milieu de fête, c'était super. J'adorais ça, c'était énorme, j'étais très admirative. Mais j'ai toujours été impressionnée par cette force et cette énergie qu'il faut donner pour pouvoir sur les chantiers, quoi, pour que ça marche et tout ça. Je pense qu'il faut, c'est sûr, il y a une histoire de risque et de danger c'est certain, évidemment. Et je pense que quand on est mordu, il y a... Et tous les artificiers adorent aller voir une bombe qui explose. Enfin, c'est... Oui, c'est sûr. Je sais pas si c'est une histoire de peur, mais je pense que c'est une histoire de... Je dirais d'intensité, vraiment, quoi. Mm. Ben, on aime bien ce... C'est comme quand on est petit et qu'on joue avec des pétards, on allume des mèches, on est trop content, ça pète, c'est magique. Et quand on est un peu plus grand, on est passionné, et passionné par la poudre et par la détonation et tout ça, donc... Et puis oui, c'est ça, c'est la recherche de toujours faire des nouveaux effets que personne ne fait ou que d'autres font différemment. Et puis c'est de la magie, quoi, vraiment. À partir d'une petite poudre, on arrive à faire des choses qui sont monstrueuses.
Oui, en fait, ce que vous aimez vous ressentir, c'est le feu, quoi, c'est voir le feu.
Ah oui, oui.
Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Je pense que c'est la puissance, vraiment. La puissance du feu, la puissance de la poudre, la puissance de la détonation. Moi, personnellement, je sais pas, c'est venu en grandissant, mais quand une bombe explose, j'explose avec, vraiment, intérieurement, c'est fou.
David Morin-Hullman, Margot Osier nous parle dans un sourire d'explosion intérieure, d'intensité, de goût singulier pour la détonation. En quoi la métaphore érotique est-elle, selon vous, éclairante pour parler de la pyrotechnie ?
Alors ici, évidemment, vous avez entendu son vocabulaire qui, justement, vous a fait penser à quelque chose d'érotique. Nous sommes sur la dépense d'énergie, nous sommes sur l'excès, nous sommes sur la poudre, et elle a bien parlé de puissance. Elle a parlé de danger. J'ai noté tout de suite cette expression, jouer avec sa peur, comme quand on était petit. Et oui, que nous reste-t-il, justement, je me permets de parler encore de l'Occident, mais en Occident, que nous reste-t-il dans un monde qui, justement, est logo, tout à fait logo, tout à fait scientifisé, si vous me permettez.
Discours rationnel, donc, le logos. Hein.
C'est ça, évidemment, oui, pardon. Un discours rationnel, le logos. Hein, c'est, quand je parle de logos, moi, je renvoie évidemment à la rationalisation, à la mathématisation dont on a parlé, au fait aussi de nos vies bureaucratisées, au sens de Max Weber. C'est Max Weber qui parle de ça, enfin bref. Donc, des vies qui sont plutôt bureaucratisées, voilà. Et donc, la dépense, évidemment, érotique, c'est le contraire. La dépense érotique, c'est justement l'excès, c'est un réenchantement avec de son corps, c'est la sensation même de sentir son corps. Vous pouvez avoir aussi le sport, évidemment que le sport est une dépense totalement érotique, au sens où on va sentir ce corps à l'intérieur. Et ce que disait cette jeune fille, et c'était superbe quand elle parle de chantier, de prise de risque et de danger, et de magie, c'est que c'est ressentir à nouveau, toutes les fois, cette magie que d'être présent, d'être ici, d'être présent là. Et évidemment, le bruit et le feu sont des choses qui nous permettent d'être présent, d'être un peu plus présent que lorsque nous marchons, par exemple, tout simplement, ou nous nous ennuyons, ou nous regardons simplement l'horizon.
André Topalovitch, vous intervenez plutôt en amont des feux, avant la déflagration, avant la détonation. Vous écrivez des scénarios, vous participez à la mise en scène, en particulier avec David Proto, grande signature de la pyrotechnie mondiale qui travaille à vos côtés. Quelles sont vos sensations dans ce travail de création qui est le vôtre ?
C'est une sublimation. On a des clients qui nous demandent à chaque fois d'aller plus loin, toujours plus loin, d'avoir des choses qui sont nouvelles, de ne jamais répéter ce qui a déjà été fait. Donc c'est une remise en cause permanente. C'est aussi amener au public des émotions qui doivent transparaître, c'est-à-dire, comme disait notre interlocuteur, on a des sensations au travers de la joie, mais aussi on sent des choses physiques. Quand on a une déflagration, on a une onde de choc qui vient vers soi. Donc, certains peuvent, je veux dire, à la limite, on peut presque parler d'Armageddon sur un instant T. Donc, il y a des émotions fortes qui sortent. Et ce sont des émotions qu'on partage aussi avec sa famille, le public qui est aux alentours. Donc, c'est visuel, c'est sonore, c'est physique.
Vous avez le souvenir, vous, avec la puissance de feu qui est la vôtre dans des grands moments, des grandes manifestations comme ces fêtes nationales aux Émirats Arabes Unis, d'avoir été, je ne sais pas, soufflé par la déflagration ?
Non, on la ressent bien et surtout, quand on tire un feu, je suis tourné vers le public, je vois très peu le feu, à vrai dire. Et je regarde les émotions pour voir si les émotions de ce qu'on a écrit passent au travers du public. Et nos clients sont aussi très attentifs à ça. C'est-à-dire que les remontées viennent en général du public vers le donneur d'ordre et nous dit sa satisfaction sera à la mesure du retour des gens qui ont assisté au feu. Et tout le but pour nous est justement de créer ces émotions. Mais on pousse notre signature aujourd'hui, c'est créer une émotion qui va vers la joie et non pas vers la destruction. La joie, l'amour, le partage. C'est ça, ce sont nos trois valeurs aujourd'hui qui sont mises en avant dans une région qui est finalement assez troublée.
Mais je parlais de la dimension érotique avec vous, David Morin-Hulman, peut-être parce qu'il y a une certaine joie dans la destruction.
Évidemment, c'est ce qui nous intéresse.
Là, on attend le final, peut-être, comme dans l'acte amoureux.
Oui, peut-être. Évidemment, vous pouvez filer la métaphore. Vous pouvez filer la métaphore à partir du moment où vous savez très bien qu'à la fin, il y aura cette décharge d'énergie, qui est une décharge physique. Vous parliez, monsieur Topalovitch, justement, de satisfaction, de sublimation, de joie, d'amour, de partage. On est en plein dans cette métaphore filée ou cette dimension érotique du feu d'artifice. C'est un choc. Je me permettais de vous dire, c'était simplement de regarder à l'horizon quelque chose qui nous choque. Vous regardez un horizon, un paysage, une nuit, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que nous parlons de la nuit, qu'il y aurait pour pas sans sourire une sorte de psychanalyse du ciel à faire, psychanalyse du ciel de jour et de nuit, enfin bref, en tout cas ici c'est une psychanalyse de la nuit. Et donc, vous êtes dans cette nuit qui vous enveloppe, vous regardez à l'horizon, vous voyez peut-être la mer, puisque là, on parlait des feux d'artifice de Nice, etc. Vous voyez un horizon, et grâce au feu, vous resymbolisez en fait cette nature, vous resymbolisez votre horizon. Et évidemment, lorsqu'il y a des chocs physiques, j'ai parlé de la guerre, mais c'est aussi quelque chose qui est très très, c'est très, très proche. Nous voulons en Occident, je répète encore ce mot, nous voulons en Occident absolument ne plus rien voir de la guerre, mais en fait, elle est présente non seulement à la télévision et dans les films, évidemment, mais elle est présente dans ces moments de grands chocs. Et les feux d'artifice sont, pour moi, il me semble, la continuation de la guerre par d'autres moyens.
André Topalovitch, c'est un sujet dont on peut parler avec des commanditaires, des donneurs d'ordre émiratis, la question de la dimension érotique du feu d'artifice, ou c'est à vous ?
On ne va pas parler de dimension érotique, bien évidemment. On va parler plutôt de sens de, je veux dire, d'union, puisque c'est l'union familiale. C'est ramener les gens à se parler, à partager des moments ensemble, à l'heure, effectivement, où tout le monde est derrière son smartphone, sa tablette, ne communique plus. Regardez-les autour de vous. Sur une table, vous avez 5 jeunes qui tapotent sur leur téléphone. Nous, on amène tous ces gens ensemble. Et ils sont tous avec leur téléphone à filmer le film. C'est assez phénoménal. Donc on va travailler, on va éviter quand même un certain nombre de choses culturelles. On doit s'adapter aussi à la culture locale.
Mais quelle est justement la dimension culturelle au Moyen-Orient, en particulier aux Émirats arabes unis, que vous connaissez, du feu d'artifice, parce qu'il y a cette tradition extrême orientale, bien sûr, qui est venue jusqu'à nous. Mais alors ce feu d'artifice aux Émirats, est-ce qu'il a un sens culturel? Quel sens a-t-il aujourd'hui?
Le feu d'artifice est arrivé récemment au Moyen-Orient. On ne parle pas de la partie historique ou de l'histoire de la poudre qui est arrivée jusqu'en Occident. Ils ont une tradition qui a 20 ans, mais ils apprennent très vite. Ce sont des pays qui ont 40 ans. Depuis 20 ans, ils font régulièrement des feux d'artifice pour célébrer leur fête principale, religieuse ou étatique. Et au-delà de ça, ils sont arrivés à se dire que plutôt que de faire du volume, on pouvait amener de la qualité, on pouvait créer des émotions. Et c'est là où ils ont commencé à vraiment interroger des sociétés françaises, puisque les sociétés françaises font partie des meilleures du monde dans ce domaine, justement pour amener une différenciation et dire, voilà, nous, quand il y a Londres, Sydney qui fait son feu d'artifice, ben, nous, aux Émirats, on est là, on existe, et depuis peu, mais on est là, on est présent.
Et à ce propos, David Morin-Hulman, il y a évidemment une dimension politique du feu d'artifice. Les communes, que ce soit aux Émirats, mais aussi dans notre pays, cherchent à impressionner leur public et donc leurs électeurs. La pyrotechnie est peut-être une démonstration de puissance avant tout destinée aux hommes. Et le feu d'artifice en plein air, ou encore sur grand écran, puisque vous avez écrit à ce sujet, David Morin-Hulman, il a à voir avec le potlatch, le rite ancien du gaspillage ostentatoire.
Exactement, oui. Ce rite ancien repris par Mauss, évidemment, au début du XXe siècle, vous avez cette dimension donc de la politique et de l'excès. C'est-à-dire que si vous voulez exister, tout à l'heure je parlais d'existence de la personne par le choc physique, eh bien en politique, si vous voulez exister, il faut passer par la puissance. Qu'est-ce que la puissance? Ça se différencie, il y a une différence entre la puissance et le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'organisation, c'est la hiérarchie, mais la puissance, c'est le fait d'être capable de faire la guerre. La puissance, c'est d'être capable de détruire tout et n'importe qui. Donc le cinéma américain, lui, nous montre bien par ses effets spéciaux qu'il est capable de détruire la totalité du monde, qu'il est capable d'avoir tant et tant d'hélicoptères ou d'avions, etc., de porte-avions. Et puis, pour le feu d'artifice, il y a aussi cette dimension, que ce soit dans une petite commune ou dans les grandes communes, et je pense évidemment au feu d'artifice de Versailles. Mais là, M. Topalovitch pourrait nous parler justement aussi des feux d'artifice qu'il met en place, c'est justement des guerres de potlatch. Donc le potlatch, c'est une guerre sans guerre, une guerre symbolique, une guerre à l'estime pour impressionner les gens, pour impressionner ses ennemis. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis au sens guerrier du terme, mais il y a une sorte d'ennemi au sens politique. Et vous essayez d'impressionner, de faire le beau, si je puis utiliser cette expression, pour que les gens se disent... Quel beau feu d'artifice! Et vous revenez chez vous, comme le disait aussi M. Topalovitch, vous revenez chez vous en famille ou en couple, et vous dites voilà, là il y a vraiment quelque chose, j'ai ressenti quelque chose de physique, mais c'était évidemment, oui, politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, ce sont des mini-luttes ou des luttes tout court.
André Topalovitch, le potlatch, c'est cette destruction rituelle des richesses pour montrer qu'on vaut plus que ça, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, dans les feux d'artifice que vous organisez donc, au Moyen-Orient, l'idée de, pour les donneurs d'ordre, les commanditaires, de manifester leur munificence, leur capacité à faire partir en fumée et en lumière une partie de leur importante richesse?
En fait, ça a toujours été un instrument effectivement politique ou du moins sociologique, dans le sens où on ramène le bien vouloir des gens à soi au travers du feu d'artifice, et ce depuis le début de l'histoire du feu d'artifice. Mais il y a aussi une grosse dimension économique. Aujourd'hui, quand vous allumez votre télévision le 1er janvier, vous voyez les feux d'Auckland, de Sydney. On passe maintenant à Dubaï, ensuite on va à Londres, malheureusement il n'y a rien à Paris, ensuite c'est Times Square et Rio de Janeiro. Pour revenir à Sydney, Sydney génère un revenu net d'environ 150 millions de dollars australiens. Ce qui est quand même pas négligeable. Ils ont investi pendant des années et aujourd'hui, des gens se donnent rendez-vous à Sydney pour aller assister au feu d'artifice et célébrer le nouvel an.
Mais alors ça leur coûte combien, puisqu'ils font brûler la piste, comme on dit aussi en Afrique du Nord?
Sydney va coûter aux alentours d'1,5 million de dollars pour 150 millions générés avec tous les revenus directs et indirects, y compris en prenant en compte l'impact médiatique sur la planète.
Alors il y a des feux qui commencent plus petits, il y a aussi des artificiers qui ne sont pas encore aux manettes des feux de Sydney et qui pourtant ont des idées. C'est le cas de Patrick Osier, le père de Margot que nous entendions à l'instant, au micro toujours de Marine Loyen.
Moi je suis un autodidacte. J'ai appris pour le besoin d'un spectacle un jour. J'ai fait une pièce de théâtre sur le mouvement Dada. J'ai fait dans un théâtre à Ris-Orangis, il y a très longtemps, il y a plus de 30-40 ans quand même, à peu près. On a fait une pièce de théâtre sur le mouvement Dada et puis on avait besoin de faire un repas dadaïste. On avait fait un lustre de corps humain. Et j'ai dit, ben pourquoi on ne ferait pas un repas pyrotechnique? Et on a fait un repas pyrotechnique, chaque convive allumait ses propres aliments. Et ça a tellement bien marché. Le maire il m'a demandé, mais tu ne veux pas nous faire le 14 juillet? Et j'ai dit, pourquoi pas, hein, c'est très simple, il suffit d'acheter la matière et puis composer et puis... À l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas d'informations sur la pyrotechnie, à part les artificiers qui vendaient, qui te donnaient des combines pour faire les méchages, et puis t'apprenais sur le tas. Maintenant, tu passais des examens, mais tu n'apprends que de la théorie, mais tu n'as aucune pratique. Pour être artificier, il faut au moins 3-4 ans. J'aime bien surprendre les gens, leur faire peur, les faire rire. Dans un feu d'artifice, c'est très dur de faire rire les gens. Mais j'aime bien créer la surprise, des émotions fortes. Hein. Faire parler le feu, quoi.
C'est des sensations fortes.
Ouais, enfin, moi je suis à la recherche de ça, des émotions. Mélanger l'eau, le feu, le tremblement de terre. Moi, je travaille bien. J'aime bien travailler tous ces éléments pour faire participer les gens.
André Topalovitch, ici, Patrick Osier nous parle notamment de son apprentissage, qu'il a démarré autodidacte, et puis il s'est formé, il a passé des certifications. C'est votre cas aussi. Mais alors vous, peut-être que vos souvenirs les plus explosifs, les plus incandescents, ils sont plutôt du côté de l'expérimentation, non pas un soir de feu, mais dans les laboratoires de recherche et développement de la Croix-Rougerie, votre entreprise?
Oui, tout à fait. En fait, comme on est en face de clients très exigeants au Moyen-Orient, en Asie centrale, ils veulent toujours avoir ce qui n'a pas été fait, ce qui nous pousse à travailler constamment dans l'élaboration de nouveaux produits, de nouveaux effets. Et en l'occurrence, pour une des têtes couronnées que je ne peux pas citer, il m'a été demandé de reproduire une rose. Et donc, on a été les premiers, après une longue discussion et énormément d'allers-retours avec le laboratoire et la mise en place de cette bombe, à recréer une rose dans le ciel. Je dois dire que quand je suis arrivé en France auprès de mon bureau d'études et que j'aurais dit « on va faire une rose », ils m'ont regardé quand même de façon bizarre et de dire « attention, ça ne va pas être simple ». Mais j'ai confiance et j'ai eu bien raison de leur faire confiance. On est arrivé à faire ça et on a eu un résultat qui a été magique puisqu'on a sur le lieu de tir, on a mélangé les images 3D en mapping d'un champ de roses qui se levait avec des bombes pyrotechniques en forme de roses derrière. Et ça a été, le client était ravi.
Alors le client est ravi, David Morin-Hulman, mais aussi on l'a entendu dans vos témoignages, en particulier dans celui d'André Topalovitch, le spectateur est ravi, il s'émerveille, il admire la puissance du souverain, la puissance de l'État. Mais qu'est-ce qu'il en retire, lui, ce spectateur ?
Ben, tout ce qui a été... Je crois que nous avons dit certaines choses, entendu surtout ce que disait aussi Monsieur Osier.
autour de faire parler le feu, c'est-à-dire avoir des émotions fortes et, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous faire trembler un petit peu dans un monde où ça tremble moins. Je disais attention, hein, j'ai dit en Occident, c'est pour ça que je dis dans un monde, pour moi c'est le monde occidental, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le monde est un petit peu plus sécure, il y a une grande sécurité au sens de la violence, parce qu'il ne faut pas oublier, je me suis permis de vous dire, différencier un petit peu le pouvoir et la puissance, il faut aussi parler de la violence. Donc un monde un peu moins violent, ou voire avec les historiens de la violence, ou je pense à Norbert Elias qui est socio-historien, qui nous montre que nous sommes donc des mondes extrêmement pacifiés. À partir du moment où nous sommes des mondes pacifiés, nous avons aussi besoin de cette violence qui existe de façon ancestrale et animale, cette violence qui s'exprime parfois par une volonté d'avoir des émotions fortes. Et ces émotions fortes, vous les trouvez avec ce que disait aussi la fille de ce monsieur, jouer avec les pétards, je disais, quand on est petit, et jouer avec des sommes, j'allais dire, des sommes astronomiques, comme 1,6 million, j'entendais, pour les feux d'artifice, mais qui, c'est là l'avantage du capitalisme, ou son génie, si je peux utiliser ce mot-là, le génie du capitalisme, c'est de réussir à enregistrer. Il enregistre en fait le potlatch. C'est ça le potlatch moderne avec le capitalisme. Il y a une sorte d'économie politique du feu d'artifice à côté de ce qu'on a dit tout à l'heure, une sorte de psychanalyse du ciel. Et vous avez ce mélange avec ce système capitaliste qui enregistre la totalité des choses et qui vous ensuite qui vous les repropose. Et vous pouvez acheter le DVD, etc. etc.
Merci beaucoup. Dois vous arrêter sur votre lancée, telle une fusée, David Morin-Hullmann, puisqu'il est 13h15 sur France Culture. Je tiens à vous remercier grandement. Vous parlez de cinéma et à juste titre, je rappelle, David Morin-Hullmann, que vous êtes en particulier l'auteur de La Destruction Festive du Monde, étude diagonale des films explosifs, paru en 2013 dans le numéro 147 de la revue Cinémaction. Quant à vous, André Topalovitch, vous donnez rendez-vous aux spectateurs du monde entier à Dubaï pour la fête nationale le 1er décembre prochain et puis le 31 décembre également pour être en avance sur Sydney. Quant au clan Osier, eh bien, il vous donne rendez-vous dans le cadre de l'Uzest Musical, le festival d'Uzest dans les Landes, le 18 et le 19 août pour un feu d'artifice diurne et un artifice opéra. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver la chronique d'Aude Lavigne à première vue qui s'entretient aujourd'hui avec Alain Seban, le président du Centre Georges Pompidou.
Alain Seban est président du Centre Georges Pompidou à Paris et conseiller d'État. Diplômé de l'École Polytechnique, passé par l'ENA, il a été renouvelé dans ses fonctions de président du Centre Georges Pompidou et pour 3 ans en février 2012. Visite dans son bureau. Il répond à notre question, quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain? À première vue, Alain Seban nous répond.
À l'origine de ma vocation, je ne sais pas si je peux le dire, mais en revanche, je crois que je peux me souvenir, oui, du moment où j'ai réalisé que l'art contemporain ouvrait des perspectives auxquelles je n'avais pas pensé. Moi, j'ai grandi en province, hein, dans un petit village de l'Ariège, pas très loin de Toulouse. À Toulouse, il y avait une assez bonne galerie, qui s'appelle la Galerie Protée, une bonne galerie. Et j'allais régulièrement dans cette galerie avec mes parents. Mes parents s'intéressaient à la matière abstraite, c'est quelque chose que j'ai intégré très tôt. Donc, mes parents s'intéressaient à Hartung, Gazaouki, etc. Tout ça me posait pas de questions, ça s'intégrait dans une continuité par rapport à d'autres choses. Là où je me suis senti un peu déstabilisé, je dois le dire, c'est quand donc cette galerie Protée a présenté une exposition de peinture de Peter Klaassen. Autant l'abstraction, finalement je trouvais pas que c'était quelque chose de révolutionnaire, autant faire de la peinture avec des arrières de camion un peu sales, ça, pour moi, c'était quelque chose que je ne pensais pas possible et qui, moi, m'a assez séduit, et ce, d'autant plus que mon père a tout de suite été viscéralement contre. Donc, je me souviens d'échanges assez vifs. Finalement, j'avais accroché l'affiche dans ma chambre. Je me suis fait assez mal voir, mais c'est peut-être le moment où j'ai affirmé, finalement, un jugement artistique autonome.
Oui, c'est presque un acte de rébellion, un geste quasiment punk, visiblement.
J'étais pas du tout, c'était pas un geste rebelle, hein, c'était pas mon tempérament. Non, je pense qu'il y a eu cette idée que voilà, les images contemporaines pouvaient être le sujet non seulement d'une œuvre d'art, mais même d'un médium qui est le médium par excellence de l'histoire de l'art, c'est-à-dire la peinture. Autant avec l'abstraction, on est dans une forme de... soit d'aller au-delà du visible, on pense à Kandinsky, on pense à Mondrian, soit dans une gestualité où s'exprime quelque chose qui ne s'exprimerait pas dans le langage. Autant là, on inscrivait dans une forme plastique quelque chose qui, oui, était porteur d'un message politique, quand même un message assez fort par rapport à la société d'aujourd'hui, à la société de consommation, à la manière dont on laisse se périr et se dégrader la société industrielle. Voilà, c'est la première fois que j'ai réalisé que l'art pouvait être porteur de ce type d'interrogation et pouvait nous amener à nous interroger sur le monde dans lequel on vivait. Et au fond, il me semble que c'est l'essence même de l'art contemporain. Et c'est ce que j'essaie de faire partager ici au Centre Pompidou, l'idée que tout art contemporain est porteur d'un questionnement sur le monde, même et surtout lorsqu'il le refuse.
C'était à première vue la chronique d'Aude Lavigne, et je vous propose à présent de prendre la direction de la Chine, patrie du feu d'artifice, pour parler d'un film plus paranoïaque que pyrotechnique, Trap Street, autrement dit La rue piège, qui sort en salle aujourd'hui, une histoire d'amour signée Vivian Chu, qui, de passage à Paris, m'a donné rendez-vous dans une ruelle un jour de pluie. Vivian Chu, productrice chinoise de films indépendants, notamment le fameux Black Call, remarqué au Festival de Berlin, puisqu'il a eu l'Ours d'Or. Vous passez à la réalisation avec Trap Street, et votre film s'ouvre sur un géomètre qui observe une femme à travers son appareil topographique. Est-ce que la caméra est pour vous un outil qui vous permet de regarder enfin vos concitoyens dans les yeux ?
La réponse est oui et non, parce que je trouve que le meilleur film, ça sert à pour savoir si c'est pour regarder ou être regardé. Oui, dans un sens, cet outil est comme une caméra, car ça sert à observer. Mais mon film sert à discuter la fonction limite de cet outil, car le protagoniste au départ, il s'en sert beaucoup de son outil pour observer la société et la fille. Pourtant, il était très loin de la réalité. À la fin, il a été privé de tous ses outils et c'est seulement à ce moment-là qu'il est plus proche de la réalité. Mon histoire, c'est pour révéler la vérité cachée d'une société qui ressemble à une société en paix. Mais en fait, mon histoire sert à découvrir la vérité cachée. À mon avis, le travail d'un géomètre, c'est pour découvrir tous les détails négligés ou oubliés par les gens de cette ville. Donc pour nous, c'est pareil. Quand ce géomètre découvre les détails de cette ville, c'est comme si on découvre les détails oubliés ou cachés de cette société.
On a wagon bound for market.
Il y a quelque chose de paranoïaque et quelque chose de kafkaïen dans votre film Trap Street. Il y a ce fameux opéra de Philip Glass et Bob Wilson qui s'appelle Nixon in China. Est-ce que votre film, c'est un peu Kafka in China ?
Alors, mon histoire, c'est comme une sorte de Kafka en Chine, parce qu'il parle d'une personne qui vit dans une sorte de système bureaucratique. En fait, le film est une synthèse de beaucoup de phénomènes. Ce n'est pas la vie d'une seule personne.
Votre film, votre mise en scène, Vivian Chu dans Trap Street, a quelque chose de parfois assez documentaire, parfois irréel. On n'est quand même pas dans un cinéma très maniéré à la John Woo. On sent des accents à propos de paranoïa du film de Francis Ford Coppola, The Conversation, la conversation secrète, qui avait reçu en son temps la Palme d'Or à Cannes. C'est une référence pour votre film ?
En fait, j'ai vu ce film il y a quelques années, mais après je l'ai oublié. C'était seulement à Venise que les autres m'ont parlé de ce film. Pendant l'écriture de mes scénarios, je regarde souvent les films de Bresson, car ces films sont assez purs. Ça m'aide à éclaircir mes idées et garder l'esprit clair.
Il y a dans votre film, si on le regarde sous un angle sociologique, une tension entre la jeunesse éprise de liberté, et les vieux bureaucrates archaïques et autoritaires. Or, il y a un jeune homme qui n'a aucun problème dans votre film, c'est le colocataire du héros qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo de zombies. Est-ce qu'il y a une métaphore de la jeunesse chinoise dans ces zombies ?
Les jeux vidéo, c'est un acte très courant chez les jeunes chinois aujourd'hui. C'est d'ailleurs une façon qui rapproche tous les jeunes de la planète entière. Alors, maintenant, les jeunes passent beaucoup de temps à jouer les jeux vidéo et ils arrêtent de réfléchir. Je pense que c'est ça que je voudrais montrer dans mon film. Dans ce film, il n'y a pas que son colocataire, même le protagoniste lui-même, au départ, il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, même lui-même, il ne réfléchit pas. Ça, c'est au début du film, mais à la fin, il commence à réfléchir. Je pense que ce n'est pas que le problème aux jeunes, c'est le problème de tout le monde. Aujourd'hui, quand on est bombardé d'informations, tout le monde a arrêté de réfléchir.
Mais dans le film, Vivian Chu, c'est au risque de la solitude pour votre héros, de se mettre à réfléchir, ça l'isole des autres. Vous, qui êtes productrice et réalisatrice de films qui réfléchissent et qui donnent à réfléchir, est-ce que vous avez le sentiment d'être isolé dans la société chinoise d'aujourd'hui ?
Oui, je pense que les penseurs sont souvent isolés, comme les artistes. Mais sur le marché des films d'aujourd'hui, il existe beaucoup de films commerciaux qui n'invitent pas à réfléchir. Il y a même beaucoup de films commerciaux qui sont mal faits. Les bons films d'auteur qui invitent le spectateur à réfléchir existent très peu sur le marché d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire les films d'auteur, je savais que j'allais sur un chemin difficile et toute seule. Heureusement que dans le monde entier, il y a quand même des gens qui admirent ce genre de film. Cela représente une grande motivation pour nous.
Parce que le public, pour les films d'auteur, pour vos films, ceux que vous produisez, ceux que vous réalisez, Vivian Chu, ils sont plutôt à l'étranger qu'en Chine.
On ne peut pas dire que l'audience de mes films existe principalement à l'étranger. Ce qui manque en Chine actuelle, c'est juste une sorte de système qui soutient ce genre de film.
Tout
d'abord, il y a la question de censure. Il y a beaucoup de films qui sont exclus à cette étape-là. Après la censure, il faut dire que beaucoup de sociétés de distribution, pour la raison de profit, beaucoup de cinémas, ils ne vont pas choisir de projeter ce genre de film. Donc pour l'audience en Chine, à part à travers les DVD piratés, ils ont très peu de chance pour accéder à ce genre de film d'auteur. Par exemple, il y a quelques jours, quand je me suis promenée dans la rue de Paris, j'ai passé au moins une dizaine, même une vingtaine de films de cinéma. J'ai vu beaucoup de Parisiens faire la queue pour regarder des films d'auteurs. Mais à Pékin, il n'y a qu'un seul cinéma qui projette des films d'auteurs.
Dans Trap Street, les nerfs, les sentiments du spectateur sont parfois mis à rude épreuve. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions également. Mais il y a aussi quelque chose d'assez optimiste qu'on voit apparaître, me semble-t-il, par petites touches. C'est la place grandissante des femmes dans la société chinoise. Leur prise du pouvoir discrète, mais certaine. C'était votre intention de témoigner de cela ?
D'un côté, les femmes en Chine ont de plus en plus de pouvoir, sont de plus en plus fortes, mais d'un autre côté, l'inégalité entre les deux sexes existe toujours. Donc ces deux phénomènes coexistent tout le temps.
Et vous avez le sentiment, vous, Vivian Chu, productrice de films à succès, Black Cold Sinai, qui vient d'avoir l'Ours d'or à Berlin, et réalisatrice de films, vous avez le sentiment d'être une femme d'exception ?
En Chine, actuellement, il existe très peu de producteurs indépendants. Peut-être que dans le futur, ce sera amélioré. Je ne peux pas dire que je suis une femme exceptionnelle, spéciale. Je suis juste une cinéphile qui fait son cinéma.
There's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona.
La traduction de cet entretien a été réalisée par Vivian Wu. Trap Street de Vivian Chu sort aujourd'hui sur nos écrans. Et à présent, aventurons-nous dans une autre ruelle, mais cette fois-ci une ruelle de Lisbonne, avec la session live de Mathieu Conquet, qui nous propose aujourd'hui d'écouter Carminho, nouvelle étoile montante du fado, qui réunit dans sa musique les fantômes d'Amalia Rodriguez et de Fernando Pessoa, et qui interprète aujourd'hui Saudades do Brasil em Portugal de Vinicius de Moraes, en duo avec Diogo Clemente à la guitare.
Das minhas lágrimas de amor criou o mar que existe entre nós dois para nos unir e separar.
se eu te dizer a dor que dói dentro de mim, nunca mais meu coração nesta paixão que não tem fim. Minha ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudades do Brasil em Portugal. Meu bem, sempre que ouvires o lamento, crescer desolador na voz do vento, sou eu em solidão, pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi.
C'était la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Carminio, dont le disque Alma est disponible chez Mundo Records. La saudade, cette tristesse liée à la disparition d'un être cher, s'est emparée de la grande table d'été et enveloppe encore la dernière partie de notre émission consacrée à la disparition de Pierre Rickmans, alias Simon Leys, lundi en Australie. Écrivain, essayiste, traducteur, chroniqueur, spécialiste de la littérature chinoise, il occupait, après Simenon, le fauteuil numéro 26 de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, mais vivait de longue date à Canberra. Lui qui aimait à dire le plus grand plaisir de lire et dans la relecture, il faut bien sûr le lire et le relire, en particulier ses essais sur la Chine, parus chez Robert Laffont, son Bonheur des petits poissons, ses Lettres des antipodes chez Jean-Claude Lattès, et puis ses fameux habits neufs du président Mao. Et pour vous donner le goût de la lecture de Simon Leys, la Grande Table d'été donne aujourd'hui la parole à trois personnes qui l'ont bien connu et qui parfois l'ont suivi au bout du monde. Trois invités qui sont avec nous par téléphone. Philippe Paquet, bonjour. Vous êtes journaliste à la Libre Belgique, historien, sinologue vous-même, auteur d'une biographie de Simon Leys à paraître au printemps prochain chez Flammarion. Et vous nous parlez depuis Bruxelles par la magie des ondes électromagnétiques. Avec nous également autour de la grande table d'été, Claude Hudelot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes également sinologue, vous êtes historien de la Chine contemporaine, on vous doit des documentaires et puis des grands entretiens également avec Simon Leys, des entretiens radiophoniques. Vous avez été producteur à France Culture et il y a notamment cette série d'entretiens qui date de janvier 1977. Enfin, troisième invité pour évoquer l'homme et l'œuvre de Simon Leys, Jean-Marie Simonet, bonjour.
Bonjour.
Ancien diplomate, vous avez été également conservateur des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles. Jean-Marie Simonet, Simon Leys était pour vous comme un frère que vous avez rencontré alors qu'il ne s'appelait encore que Pierre Rickmans, à votre entrée à l'université au sens propre du terme.
Exactement. C'était mon camarade d'études à Louvain pendant des études de droit de 1953 à 1958. Et j'ai un souvenir impérissable, c'est le jour même de l'inscription Nous venions de toutes les provinces belges et nous nous trouvions dans les halles universitaires où nous faisions la queue, des queues dans lesquelles on était plantés pendant parfois une heure et quart. Et évidemment, il y avait un peu d'énervement, un peu d'impatience, et tout le monde s'agitait normalement un petit peu. Et dans cette queue, où j'essayais de bien défendre ma place, derrière moi, il y avait quelqu'un qui avait à peu près une tête, une demi-tête plus haute que moi, et qui m'a impressionné dès ce moment-là. Il était planté là, immobile, il était plongé dans la lecture du Figaro littéraire. Et dans ce brouhaha impatient, il m'a impressionné. Et alors, c'est seulement plus de deux ans après, dans la troisième année d'études de droit, que j'ai vu qu'il était sur les mêmes bancs que moi à l'université pour faire des études de droit, que nous avons poursuivi alors 58. Et alors, moi, je n'avais pas vraiment la vocation juridique, et lui non plus, certainement. On s'amusait à toutes sortes de choses, et c'est un peu par désœuvrement que, l'ayant vu faire du chinois, je l'ai approché et il m'a engagé comme ça, par la séduction, par l'attrait que sa personnalité exerçait sur moi. Il m'a entraîné un peu dans les études chinoises. Alors lui qui était derrière moi dans la queue pour m'inscrire à l'université, c'est moi qui étais derrière lui pour faire du chinois.
Il vous a entraîné même plus loin à propos de la Chine, puisque vous l'avez suivi au consulat de Belgique à Hong Kong.
C'est-à-dire que, oui, nous avons d'abord fait, lui le premier, des études comme boursier à Taïwan, dans une école des beaux-arts. Nous avions tous les deux un goût pour l'histoire de l'art et la peinture même. Et il se trouve que, donc, je crois qu'il est allé de 59 ou 60 pendant deux ans à Taïwan, faire des études simplement dans une école normale qui préparait des jeunes Chinois pour devenir professeurs secondaires d'art, de calligraphie et d'art dans les écoles secondaires chinoises. Et donc, nous avons appris, en tout cas moi personnellement, j'ai appris le chinois. J'ai appris à tenir un pinceau pendant ces années-là. Moi, c'était de 61 à 63. Et alors, lui était déjà rentré en Belgique à ce moment-là, où il a passé sa thèse de doctorat. Il avait fait une licence et son séjour à Taïwan lui avait permis d'enrichir son travail et de faire ce qui a été connu après sous le nom des propos sur la peinture du moine Citrouille-Amer, qui est un chef-d'œuvre. À mon avis, c'est la grande œuvre sur le plan scientifique d'érudition, sur le plan purement sinologique, c'est sa grande œuvre, c'est son chef-d'œuvre.
Claude Hudelot, Jean-Marie Simonet, Claude Hudelot, quand vous avez rencontré pour la première fois Pierrick Mans, Simon Leys, vous ne teniez pas un pinceau, vous teniez un micro. L'avez rencontré un micro à la main pour cet enregistrement dont on entendra un extrait dans un instant. Mais alors parlez-moi de cette première rencontre où vous n'aviez peut-être même pas de micro.
Ma première rencontre date de 64. Parce que ça suit à peu près ce que vient de décrire M. Simonet, c'est-à-dire qu'il était à Hong Kong, il était prof à l'Alliance française, dont mon père était directeur, et je me souviens d'un jeune homme mince, portant des chemises de nylon flottantes, avec des sandales de...
Ah, je crois qu'on vous a perdu, Claude Hudelot. Mais alors je vous propose de vous retrouver en compagnie de Simon Leys avec un extrait de ses entretiens qu'il vous a accordé quelques années plus tard, c'était en janvier 1977 pour France Culture.
Le point de départ en effet de mes études chinoises était en 1955. J'avais 19 ans, j'étais étudiant à l'université, je m'occupais nullement de la Chine, je ne savais rien de la Chine, mais je m'occupais d'un journal d'étudiants. Et à ce moment-là, j'ai eu une invitation pour aller en Chine, donc comme membre d'une délégation de la jeunesse et à titre de rédacteur de ce journal d'étudiants. Et je n'étais absolument pas prêt à faire ce voyage en Chine. Oui, j'ai lu en hâte quelques bouquins juste avant de partir. Et alors pendant un mois, donc, nous nous sommes promenés en Chine, 10 jeunes types en 55. C'était une très belle époque d'ailleurs, 55, c'était une époque encore où il y avait un immense enthousiasme, il y avait une ferveur, une jeunesse, un sentiment de dynamisme créateur en Chine. Et alors pour moi, c'était un choc absolument bouleversant, ce voyage. Je m'en souviens comme on se souvient d'un film qu'on a vu. C'est une succession d'images très belles, fascinantes, touchantes, exaltantes. Mais ce sont des images à deux dimensions. C'est pas en relief. Justement, parce que je faisais ce voyage comme un sourd-muet, je ne savais pas parler la langue. Et j'avais un tel sentiment de frustration à ne pas pouvoir communiquer directement avec les gens. J'avais le sentiment qu'il y avait là un tel foisonnement humain, une telle richesse de choses à découvrir, à connaître, à comprendre, mais que tant que je ne comprendrai pas la langue, je ne passerai pas de l'autre côté, je n'entrerai pas à l'intérieur. Et cette frustration intense au cours d'un mois, jointe à un très grand sentiment d'enthousiasme et d'intérêt et de passion, m'a déterminé donc à apprendre le chinois. Et je n'ai certainement jamais regretté depuis.
Alors en 1955, Simon Leys avait 20 ans lors de son premier voyage en Chine. Philippe Paquet, vous qui venez d'écrire une biographie de Simon Leys à paraître chez Flammarion, est-ce que c'est ce moment-là, ce premier voyage, ce voyage inaugural qui a fait basculer la vie, la Weltanschauung, la conception du monde de Pierre Ryckmans et le faire devenir à moitié chinois ?
Un double titre, je pense, comme Pierre Ryckmans vient de le dire, quand il est rentré de ce voyage, il ne pouvait plus imaginer de vivre sans approfondir cette initiation qu'il avait faite pendant un mois en Chine. Donc il s'est senti obligé d'apprendre le chinois, de découvrir ce que Mavro appellerait ou avait appelé l'autre pôle de l'expérience humaine, de découvrir l'autre facette finalement, l'autre facette fondamentale de l'humanité. Donc il va se mettre à des études de chinois, à approfondir ses connaissances, et notamment dans les domaines de l'art, de la littérature, de la peinture, etc. Mais à plus long terme, je pense aussi que ce voyage l'a marqué. Et de nouveau, il le dit dans cette remarquable interview, c'est que 55, c'était encore une époque où les illusions étaient permises. On était en Chine populaire avant les terribles événements du grand bond en avant.
Et de la révolution culturelle.
Et bien avant la révolution culturelle. Et je crois que Pierre Ryckmans, et j'ai eu la chance de retrouver les textes qu'il avait écrits à son retour de voyage, était débordant d'enthousiasme sur cette Chine. Enfin, il y croyait, comme beaucoup de gens y croyaient à l'époque, et comme les Chinois sans doute y croyaient aussi à l'époque. Et je pense qu'une partie de la vigueur qu'il va mettre plus tard dans ses essais dénonçant le maoïsme, c'est parce qu'il a été trahi dans ses espoirs, il a été trahi dans cette confiance qu'il avait placée dans la révolution chinoise. Parce que je pense que Pierre Ryckmans n'était pas, à l'époque où il a fait ce voyage en 1955, il n'était pas très loin de partager ses idéaux de gauche de la Chine de Mao. Simplement, la promesse a été trahie et je pense qu'il en a été vraiment meurtri.
Jean-Marie Simonet, vous êtes encore en ligne avec nous ?
Oui.
À l'instant, on parlait justement des écrits de Simon Leys pourfendant le maoïsme avec les habits neufs du président Mao, en particulier en 1971. Pierre Ryckmans est alors devenu Simon Leys, comme Eric Blair est un beau jour devenu George Orwell, écrivain dont Pierre Ryckmans nous dit qu'en changeant de nom, il était devenu un homme idéal, déterminé à tout prix à énoncer des vérités pas toujours bonnes à dire. Selon vous, quand Pierre Ryckmans devient Simon Leys, c'est aussi ce qui lui arrive, être tenu de dire des vérités pas bonnes à dire ?
Je ne sais pas, je ne l'ai jamais interrogé là-dessus. Je pense qu'il ne voulait pas choquer, il ne voulait pas mettre son nom à côté des écrits un peu iconoclastes. Et je ne vais pas répondre à votre question.
Mais alors à propos de ce nom, peut-être que vous pouvez nous rappeler la généalogie de ce nom de plume, où il y a plusieurs théories qui circulent. Il y a une théorie officielle défendue par Pierre Ryckmans lui-même, et puis il y a la vôtre.
Mais tout simplement, il était fasciné par Ségalène, qui a écrit beaucoup sur la Chine, etc., etc. Et donc, Leys, c'est le nom de René Leys. Il se trouve que j'ai appris par ailleurs que Ségalène, de son séjour en Chine, avait été fasciné par un Belge qui se trouvait là à ce moment-là, mais qui ne s'appelait pas René ni Leys, qui s'appelait Charles Michel. Et qui avait eu c'est un des premiers, je crois que il est considéré comme le premier sinologue laïque belge. Et il avait joué un rôle de diplomate et un rôle déterminant dans les négociations qui avaient eu lieu à la fin du 19e siècle pour la construction du chemin de fer. Un grand chemin de fer, les Belges sont des grands spécialistes du chemin de fer, et les Belges ont construit le Pékin-Hankou, qui est devenu plus tard le Pékin-Canton. Et donc, je pense que la fascination, parce que nous parlions souvent de Ségalène, Pierre et moi, a été inspirée par ce que je viens de vous dire.
En effet.
Sa fascination pour Ségalène. Et à la fin de sa vie, enfin il y a une dizaine d'années, il a été assez critique. Il a écrit plusieurs choses critiques sur la personnalité de Ségalène, qui, bien qu'ayant bien appris le chinois et ayant eu beaucoup de passion pour la Chine, n'avait pas eu d'amis chinois.
Alors précisément, Pierre Ryckmans, Simon Leys a été diplomate à Hong Kong, mais il est aussi donc l'auteur de ces fameux écrits qui n'avaient rien de très diplomatique et dont il témoigne dans les années 70 dans l'émission Apostrophe chez Bernard Pivot.
Comme vous êtes un sinologue très, très réputé, je me dis, au fond, qu'est-ce qui vous a amené un jour à abandonner ce que vous appelez l'harmonie de la culture chinoise pour vous lancer dans des livres politiques et tout à fait combattants ?
L'indignation. La politique n'est pas du tout mon domaine. Je suis un analphabète en politique. Mon domaine, comme vous venez de l'indiquer, c'est l'histoire de la littérature classique. Mais il s'est trouvé une situation, quand j'étais témoin, j'avais la réalité féroce, la réalité atroce de la terreur maoïste devant mes yeux. Les cadavres dérivaient au fil de l'eau. Ils venaient atterrir sous les grèves de Hong Kong au moment où j'y étais. Un homme s'est fait assassiner sur le pas de ma porte parce qu'il s'était moqué un peu de Mao Tse-tung à la radio, etc., etc. On rencontrait tous les jours les gardes rouges qui avaient échappé à la répression militaire, dont les camarades avaient été exécutés, jetés vivants dans des cages dans la rivière, et ainsi de suite. Bref, on avait sous les yeux l'immensité et l'évidence de cette terreur atroce qu'a représenté le maoïsme pour la Chine. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on voyait ? Mais on voyait en Europe des gens comme Madame Machoki et comme la presse respectable, etc., qui décrivaient un univers de fantaisie n'ayant absolument aucune relation avec ce que nous avions sous les yeux. Le travail que j'ai fait dans l'ordre politique n'est pas un travail de spécialiste.
Alors, Pierre Ryckmans, Simon Leys n'était pas spécialiste de la vie politique chinoise. Il a néanmoins signé ces habits neufs du président Mao qui ont eu beaucoup de retentissement à l'époque, mais qui occultent peut-être aujourd'hui, Philippe Paquet, l'immense œuvre du chercheur, de l'universitaire, qui était également à propos de la Chine, Pierre Ryckmans. Qu'est-ce qui nous a permis d'appréhender de la Chine que nous ignorions jusqu'à ce que lui y plonge le regard ?
Je crois que je me permettrai juste de revenir une seconde sur la question que vous posiez avant sur l'indignation et sur l'osmose qui règne vraiment entre Pierre Ryckmans, Simon Leys et George Orwell. Je pense que puisque le combat contre des idéologies, c'était contre le mensonge que Pierre Ryckmans, Simon Leys s'insurgeait. Significativement, dans un numéro spécial de la revue Commentaire pour son 30e anniversaire, les éditeurs avaient demandé à 30 de leurs collaborateurs les plus fidèles de choisir le mot qui, d'après eux, allait vraiment résumer les 30 prochaines années. Eh bien, significativement, Simon Leys avait choisi le mot vérité. C'est vraiment quelque chose qui l'obsédait, c'était la recherche et la défense de la vérité.
Mais donc, c'est son éducation chez les jésuites, c'est son parcours à l'université catholique de Louvain. Vous pensez qu'il y a quelque chose de catholique dans son goût de la vérité ?
Contrairement à ce qu'on a écrit dans la presse française, il n'a pas vraiment étudié chez les jésuites. C'était une école chrétienne, mais pas jésuitique, à tous les sens du terme. Mais effectivement, il a très tôt été influencé par des maîtres en religion. Il a très vite nourri une foi très, très ardente. C'était un chrétien très convaincu, un peu à l'ancienne, dirions-nous aujourd'hui. Et que ce soit une partie de l'explication ou pas, toujours est-il qu'il c'était quelqu'un d'une très grande rectitude morale, que choquait l'injustice, le mensonge, la lâcheté, l'imposture, etc.
Et quelle vérité alors a-t-il trouvé chez les auteurs classiques chinois ?
Il a appris beaucoup de choses. Je pense qu'il a surtout, à la différence de beaucoup de nos contemporains qui étudient la Chine ou qui s'intéressent à la Chine, c'est qu'il va étudier de l'intérieur. Il s'est vraiment immergé très jeune dans ses études à Taïwan qu'on a évoquées. Et puis par la suite, il n'a pas fait beaucoup de séjours en Chine, mais il a toujours curieusement vécu dans une Chine pensée comme une région de l'esprit, si vous voulez, comme un état d'être, un état d'âme. Il a toujours été entouré d'amis chinois, il va toujours baigner dans la peinture ou la littérature chinoise, donc il s'en est vraiment imprégné très profondément. Et c'est ce qui lui a permis sans doute d'avoir un regard qui était assez éloigné finalement des a priori ou des préjugés qu'on pouvait avoir en Occident, et notamment, on a évoqué Ségavène, c'est sans doute la différence principale avec Victor Ségavène, c'est que Simon Leys ne regardait pas la Chine de l'extérieur, mais ou du balcon, mais il va regarder de l'intérieur. Et il va puiser effectivement chez les penseurs chinois, qu'ils soient philosophes ou artistes ou lettrés, toute une série de vérités qui dépassent le cadre de la sinologie, qui sont finalement des principes de vie, des règles qu'on peut suivre pour vivre mieux, et notamment il y a cette fameuse apologue de Zhuangzi qui va aimer citer, qui va reproduire plusieurs fois dans ses œuvres, sur la découverte qui était nécessaire de l'utilité de l'inutile, comme il dit. C'est d'ailleurs le titre de son dernier recueil d'essais paru en France, le Studio de l'inutilité. Il était vraiment très attaché justement à cette idée qu'on pouvait retrouver le sens de ce qui est inutile, et fondamentalement c'est le sens de l'art et de la littérature.
Alors pour citer également Lao Tzu, après Simon Leys qui le cite dans son fameux ouvrage aussi Les idées des autres, qui était nourri des citations de toutes ses lectures, lui qui se disait glouton comme un chien en matière de lecture, un mouvement parfait ne laisse aucune trace, et Simon Leys d'ajouter « j'en suis totalement incapable ». Quelle trace laisse-t-il aujourd'hui Philippe Paquet ?
Je pense qu'on sera beaucoup à avoir le sentiment qu'il laisse un vide énorme, parce que c'était, je pense, une grande conscience du XXe siècle. C'est un sinologue, bien sûr, mais vous l'avez dit et rappelé, c'était bien plus qu'un sinologue. C'était un traducteur, un essayiste, un écrivain, et surtout, je pense, une conscience. C'était quelqu'un qui, à l'égal d'Albert Camus ou de Raymond Aron ou de Jean-François Revel, était des consciences de leur temps, des gens qui pouvaient s'indigner et qui pouvaient secouer le cocotier, si vous me passez l'expression, pour... rameuter vraiment les esprits, les intellectuels, les gens en général, derrière des causes qui méritent d'être défendues. C'est quelqu'un que rien ne laissait indifférent. Il pouvait s'insurger autant contre les violations des droits de l'homme en Chine que contre les stupidités d'une bureaucratie en France ou en Belgique. C'est cette conscience que moi je voudrais retenir, mais c'est évidemment aussi un prodigieux intellectuel, un prodigieux érudit, quelqu'un qui s'intéressait à tellement de domaines et qui, dans ses écrits, sans avoir l'air d'y toucher, avec ce style qui était inimitable, qui était à la fois profond et évégé, qui était sérieux et drôle en même temps, nous donna tellement de plaisir dans à lire ses essais. A priori, on pourrait se dire qu'un livre comme les Habits neufs du président Mao ou ses essais sur la Chine sont peut-être a priori des ouvrages rebutants, enfin qui demandent un certain bagage intellectuel pour les apprécier. Eh bien non, c'était directement accessible et ça avait toujours, et ces ouvrages écrits il y a 10, 20 ou 30 ans restent parfaitement d'actualité. C'est ça qui est extraordinaire, même les ouvrages politiques.
Merci beaucoup Philippe Paquet, je dois vous arrêter, mais j'invite, comme vous le faites, nos auditrices, nos auditeurs, à lire et relire Simon Leys, Pierre Ricmans, dans ses traductions des grands textes classiques chinois, dans ses essais sur la Chine, donc publié dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, et puis avec ce ton d'humoriste narquois du plat pays, comme il le disait, de Bruegel, ses chroniques publiées, donc ses chroniques du magazine littéraire rassemblées, et puis tous ses écrits sur la mer dont on n'a pas pris le temps de parler, notamment ces fameux naufragés du Batavia. Merci beaucoup à Claude Hudelot et Jean-Marie Simonet, merci également à Hervé Evano de l'INA.
Jusqu'à 14h, la grande table d'été, Martin Kénéen.
Il est 13h55, donc pour achever cette émission, je vous propose d'écouter à présent la chronique de Claudia Prolongeau, partie à la rencontre du cinéaste Zach Braff pour son nouveau film « Le rôle de ma vie ».
Oui, et aujourd'hui à la grande table d'été, nous avons retenu le dernier film de Zach Braff, réalisateur du fameux Garden State en 2004 et acteur particulièrement populaire pour avoir interprété le docteur John Dorian, personnage principal de la série Scrubs. Alors pour le rôle de ma vie, son second long métrage, Zach Braff a choisi un mode de financement très particulier, le financement participatif. Grâce à la plateforme en ligne Kickstarter, ce sont ses fans directement qui ont pu sponsoriser le film. En devient-il pour autant un film populaire ?
Je pense qu'il y a différentes formes d'art dans la culture populaire. Il y a les séries télévisées complètement idiotes qui cherchent à attirer le plus de monde possible. Et il y a les films comme Garden State ou mon nouveau film
Le rôle de ma vie. I have to get used to saying it because it's different than the American title, obviously.
Qui trouve leur public, même s'il est plus restreint. Cela dit, Scrubs a été extrêmement populaire en France. Garden State y a beaucoup de succès. Je peux dire que la campagne de financement sur le site Kickstarter a très bien marché en France. Donc, je crois que le film a des spectateurs qui sont acquis d'avance ici. Il me semble que les Français sont intéressés par tous les genres de cinéma, alors que dans certains pays, ce n'est même pas la peine d'espérer sortir le film. Je pense qu'il devrait être bien accueilli en France, parce qu'il y a une vraie tradition d'amour pour les petits films, au même titre que les blockbusters.
Je cherchais un moyen d'avoir le final cut et de ne pas perdre mon intégrité artistique. Et juste au moment où j'étais prise entre les exigences des uns et des autres, à me taper la tête contre le mur, il y a eu cette histoire de film tirée de la série de Veronica Mars qui avait pu être soutenue grâce aux fans par le financement participatif. Et donc, c'est ce que j'ai fait, car cela me permettait de faire le film que je voulais faire sans aucun compromis.
Là, j'attends Zach Braff, voilà, pour essayer d'avoir une dédicace, une poignée de main.
On a participé au Kickstarter.
VIP tickets ? Quelqu'un a des tickets VIP ?
Non, mais j'ai reçu une... On nous dit, nous confirmons votre inscription à la projection, tout ça. J'ai reçu un mail.
Alors, vous avez fait comment pour participer ?
Ben, on a donné de l'argent sur Kickstarter. Le projet est sympa.
C'est quoi le projet ?
C'était de l'aider pour la direction. En fait, il a réalisé un film. Et ouais. On a demandé de l'argent pour pouvoir le réaliser.
C'est l'expérience la plus forte qu'un artiste puisse connaître lorsque, quand les sociétés de production ne veulent pas financer son film, les fans lui disent « Oui, c'est votre film, vous avez fait ce film ».
C'était Zach Braff le jour de la projection en avant-première de son film Le rôle de ma vie, l'histoire d'un acteur raté, bon père au sein d'une famille juive qui, pour ne pas laisser éduquer ses enfants dans une école publique, se voit contraint de leur faire l'école à la maison. Et c'est en salle dès aujourd'hui.
Merci Claudia, merci également à Corinne Amar pour la traduction. Rendez-vous demain avec Marine Loyen pour une nouvelle chronique et une nouvelle grande table d'été en direct du Festival du film de Locarno. L'émission d'aujourd'hui était mise à feu par une escouade d'artificières et de moines de Shaolin réunissant Corinne Amar, Catherine Donnet, Lola Kahn, Marine Loyen, Claudia Prolongeau et Martin Kenéen. Réalisation Michel-Ange Vinti, à la prise de son, Jean-Guilain Meige.